pour introduire le sujet de la transcription, on va commencer par une définition, c'est très original. Transcrire, c'est quoi? C'est passer un contenu qui est énonçable dans un système d'écriture donné. Donc pas énonçable, qui peut être énoncé. Une peinture ne peut pas être énoncée, le commentaire qu'on donne sur cette peinture peut l'être. Tout ce qui peut être passé par l'oral ou par l'écrit. Pour ce séminaire, on va restreindre un petit peu cette définition. Et on va s'intéresser au contenu énonçable qui est passé à l'écrit. Donc on ne va pas forcément s'intéresser à des systèmes d'écriture différents, notamment des langues différentes ou des états de langue différents. D'où le fait que sur la première partie de la définition, vous pouvez voir la pierre de Rosette qui a été utilisée notamment pour transcrire différentes langues les unes avec les autres. Donc transcrire, mais quoi? Un certain type de contenu. Un discours, par exemple, un discours politique, un entretien entre deux personnes, une réflexion, un commentaire, pourquoi pas une histoire imaginaire, ou bien encore un témoignage. Transcrire quoi? C'est aussi un certain type de support. Une image numérisée, un enregistrement audio ou bien vidéo, ou bien le texte d'une autre langue, dans le cas d'une traduction. Transcrire pourquoi? Afin de matérialiser et de rendre transmissible un énoncé qui ne pourrait pas l'être autrement, notamment à distance, numériquement. Donc ici, par exemple, on voit Nelson Mandela, ce discours, s'il n'avait pas été transcrit, on n'en aurait pas de traces autres que par un autre biais, c'est-à-dire oralement si on avait été présent, ou bien dans le cadre d'un enregistrement vidéo, audio, mais il manquerait quelque chose peut-être pour le traiter. On n'aurait pas la même chose, pas le même type de données et pas pour faire la même chose. Pour quelle autre raison? Afin de diffuser et de stocker justement un contenu de manière numérique. Donc là, c'est la question du support. Donc, pour donner un exemple, en quelque sorte, l'un des ancêtres au niveau numérique des projets de stockage de transcription, le projet Gutenberg, qui contient actuellement à peu près 46 000 livres électroniques gratuits. L'une des autres raisons, c'est d'améliorer la lecture de ce contenu. Donc, il s'agit d'une question d'ergonomie. Donc, à gauche, on voit un texte qui a été transcrit avec un petit peu de mise en forme. À droite, la source originale, une image numérisée. On voit tout de suite que le texte transcrit est bien plus lisible pour un œil humain. Il s'agit aussi d'améliorer le signalement de ce contenu, donc une question de référencement. Donc ici par exemple, une recherche sur un moteur, ici Google, chercher une aiguille dans une botte de foin. On voit tout de suite que l'intérêt de la transcription, c'est d'améliorer son référencement, donc de pouvoir trouver plus facilement cette information, notamment en utilisant un moteur de recherche. Avec le référencement vient la question de l'indexation. Donc, en termes de référencement, il s'agit de ce document transcrit. Pour ce qui est de l'indexation, il s'agit de son contenu, de l'intérieur de ce document. Donc ici, on a par exemple tout simplement une table de concordance sur un terme confiscation dans un certain nombre de documents. Sans transcription, évidemment, on ne peut pas effectuer ce genre de recherche. Ensuite vient la question du comment transcrire. D'abord avec une méthode. Pour des images, est-ce qu'il s'agira de transcription manuelle ou bien une autre méthode de transcription OCR, donc reconnaissance optique de caractère, une méthode plutôt plus automatique. Et ça pose une question jusqu'à quel point les méthodes automatiques vont-elles faire gagner du temps par rapport à une méthode manuelle. Pour du texte ancien, la question se pose qui transcrit? S'agit-il d'un spécialiste ou bien d'une personne qui ne connaîtrait pas la langue et qui se contenterait de transcrire caractère par caractère? Là, ça pose une autre question. Faut-il nécessairement comprendre ce qu'on transcrit? Est-ce forcément la meilleure des méthodes? Pour transcrire, il faut aussi des normes, parfois, selon le type de texte. Lorsqu'on est sur des textes anciens ou dans d'autres langues, ou qui posent des questions par rapport à des systèmes informatiques, se pose la question de la modernisation, de la normalisation. Est-ce qu'on peut traduire
et transcrire un texte caractère par caractère sans que cela soulève des problèmes, pas forcément. Cela dépend vraiment des documents. Donc pour des textes en langue ancienne ou en étrangère, que fait-on justement par rapport à ces caractères qui ne sont pas restituables? Donc il faut trouver des moyens de substitution, il faut trouver des règles, se donner des règles, afin que le texte puisse être transcrit de manière correcte par rapport aux enjeux. Le même type de problème est soulevé lorsqu'il s'agit d'une source orale. Que fait-on avec les silences? Que fait-on avec les doutes? Que fait-on avec l'intonation? Il s'agit d'informations aussi. Ont-elles leur place lors d'une transcription? Fait-on comme s'ils n'étaient pas là? N'ont-ils aucun intérêt? Ou bien au contraire, s'agit-il aussi d'une certaine façon de les transcrire? Ce qui est un petit peu hors texte, mais qui, malgré tout, peut changer le sens du texte lui-même. Transcrire implique aussi une organisation. Donc, la transcription se fera-t-elle de manière individuelle? Y aura-t-il deux personnes? Va-t-on appliquer une organisation collaborative? Y aura-t-il des phases de relecture, de correction, ou fera-t-on tout en une seule phase? Y aura-t-il des étapes? N'y en aura-t-il pas? En général, c'est le genre de questions qui se posent dans le cadre d'une chaîne de gestion un petit peu plus longue lorsqu'il y aura, par exemple, des traitements ultérieurs qui seront successifs. Un exemple, un balisage sur ces données pour des utilisations ultérieures différentes. Donc, dans le cadre de la transcription collaborative, on a vu pas mal de projets surgir et c'est devenu quelque chose qui a un petit peu le vent en poupe depuis quelques années. Mais qui date d'il y a un certain temps. Donc, dans ce cadre-là, la diffusion et le traitement se rejoignent d'entrée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transcrire simplement dans un premier temps et ensuite d'effectuer une opération de publication. Ici, on commence par transcrire et le début de la transcription est aussi le début de la diffusion. Donc, l'un des exemples les plus connus, c'est Wikisource. Donc, par exemple, aujourd'hui, 171 078 textes ont été traités et sont passés dans le domaine public. Donc, ce genre de méthode fournit une édition, mais avec une contrainte. En général, on a le même type de document avec les mêmes fonctionnements et par conséquent, on gomme aussi certaines irrégularités. Cependant, ça peut fournir un bon point de départ. Ce n'est pas forcément le début et la fin d'un projet. Ça peut être un bon point de départ. Et ensuite, une fois que la transcription est effectuée de manière collaborative, on sort les données produites de ce cadre un peu rigide et on en fait autre chose, une édition un petit peu plus riche. Cependant, la transcription collaborative pose une certaine question, celle de la motivation des transcripteurs. Étant donné qu'en général, ce type de projet implique que n'importe qui peut intervenir en quelque sorte. Et sans rétribution. Donc, la question de la motivation est forcément posée. Donc, un exemple de projet de transcription collaborative, c'est Zooniverse, qui ne s'intéresse d'ailleurs pas uniquement à ce qui est de l'ordre du texte, mais à tout type de données. Par exemple, en astronomie, pouvoir distinguer une planète gazeuse d'une autre, ce genre de choses. Dans le cadre des humanités, par exemple, on a un projet qui propose à chacun d'aller transcrire des documents qui portent sur la Première Guerre mondiale, l'armée britannique, ce genre de choses. Pour transcrire, évidemment, il faut des outils. Et les outils sont divers, variés, mais on retrouve en général certaines fonctionnalités. De l'alignement texte-image pour faciliter la transcription elle-même. Donc un exemple, ici, un document d'archive, son image elle-même, qu'on peut zoomer, et en dessous, une fenêtre où on va saisir la transcription elle-même. Autre fonctionnalité qu'on retrouve assez facilement, le contrôle facilité pour la lecture d'une piste audio ou vidéo. lorsque la source est orale. Donc il s'agit de pouvoir lire une piste, de facilement pouvoir arrêter ce flux, de pouvoir mémoriser ce qu'on vient d'entendre ou de voir, et ensuite de pouvoir saisir. Donc pour ce genre de choses, tout simplement, on peut utiliser ce genre d'outils, c'est-à-dire des pédaliers. Donc on utilise les mains sur son clavier tout simplement pour transcrire, mais pour ce qui est de la gestion du flux, retour, avance, lecture, etc., on va utiliser un pédalier. Donc utiliser les pieds pour ce qui est de la gestion du flux, tandis que la transcription elle est gérée par les mains. Les deux sont distingués, on gagne du temps. C'est plutôt simple, mais finalement c'est ce genre de solution qui permet de gagner beaucoup de temps pour ce qui est d'une transcription. Autre fonctionnalité, l'accès simplifié à des caractères spéciaux, lorsque les documents ont des spécificités. Donc sur ce projet, toujours avec Zooniverse, on voit un document, un bout de texte qui a été découvert en Égypte, il y a à peu près 1000 ans. Donc ces caractères ne sont pas forcément ceux qu'on trouve sur un clavier d'ordinateur habituel, mais on a un clavier virtuel qui répertorie les différents caractères qu'on est susceptible de trouver. Et donc, on va pouvoir facilement choisir pour chaque caractère ici, celui qui correspond ici. Donc on a un certain nombre de caractères possibles et on limite les options en fonction de ce qu'on peut trouver. Autre fonctionnalité, lorsqu'on s'intéresse à la mise en page et qu'elle a un sens pour nous faire gagner du temps sur la transcription, c'est son analyse. Donc ici on voit qu'il y a une segmentation ligne par ligne. On peut sélectionner une ligne en particulier et ensuite on va avoir une zone qui va nous permettre de pouvoir transcrire cette ligne précisément. Donc là, on gagne du temps grâce à la mise en page qui elle-même nous donne en quelque sorte un sens de lecture, de navigation et de transcription dans le texte. Et autre fonctionnalité, notamment pour ce qui est des OCR, la présence d'un dictionnaire ou d'un caractère orthographique. Tout ceci soulève des points, notamment sur une distinction qui est assez importante. C'est la distinction entre la source et le document obtenu. Donc d'une part, notre source peut par exemple être un livre, donc on a un texte. Il y a une opération qui va s'effectuer, une numérisation, on va obtenir une image. Autre cas de figure, à partir de ce texte, on va effectuer une numérisation plus une ossérisation. Et là, on obtient une image avec un texte. Donc une image, une couche image, et en dessous, une couche de texte, ossérisée avec la qualité qui ne sera pas à 100%, mais elle sera ce qu'elle sera. Dans le cas, par exemple, d'un entretien, notre source est audio. On effectue une transcription, très bien, c'est le document obtenu. Il s'agit ici d'un texte. Et donc cette distinction est fondamentale, notamment lorsqu'on va se poser la question des droits sur les données qui sont produites et sur la source à partir de laquelle on commence. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les droits qui portent sur la source et ceux qui portent sur sa transcription. Certains droits s'appliquent à une image numérisée, imaginons qu'elle provienne d'une certaine bibliothèque municipale en particulier, mais la transcription, elle, si par exemple elle a été effectuée dans le cadre d'un projet en humanité numérique, possède des droits qui sont assez différents. Et ce genre de questions va se retrouver par la suite dans les moteurs de recherche, dans les sites qui contiennent ces différents documents, notamment par rapport à la mention des droits. Donc c'est un problème qui est soulevé notamment dans le cadre d'Europeana, où certaines mentions sur les droits et sur le type de document, d'un côté distinguent la source, de l'autre le document. Et pour conclure, la transcription nécessite d'effectuer différents choix en fonction sans doute de trois points. D'abord, l'état de la source. En fonction de sa taille, en fonction de sa lisibilité, en fonction de sa langue, on ne fera pas intervenir les mêmes personnes, on n'agira pas de la même façon, on ne segmentera pas nécessairement de la même manière les étapes à effectuer. Et les méthodes, les outils eux-mêmes seront différents. Le deuxième point, c'est évidemment les ressources. Donc personne, temps et argent. On ne va pas pouvoir transcrire autant aussi finement, avec des normes très précises, ni même les mêmes types de documents en fonction de ses ressources. Et pour finir, évidemment, ce sont les objectifs. On ne transcrit pas de la même manière si le seul impératif, c'est la diffusion, ou dans un autre cas, si l'impératif premier, c'est l'analyse, ou enfin, s'il s'agit d'effectuer une véritable édition, ou encore s'il s'agit d'effectuer les trois à la fois. J'en ai fini. On passe à Laurent pour les bibliothèques virtuelles humanistes.
J'ai une petite question.
Ouais.
Sur les logiciels d'aide à la retranscription, ouais. J'en ai présenté un qui faisait du ligne par ligne. Mm. Est-ce que la sélection des lignes est automatique ou facilitée ou est-ce qu'elle est manuelle?
Sur celle-ci, de mémoire, elle est facilitée dans le sens où il y a des petites réglettes qu'on va choisir. C'est-à-dire qu'elles se calent comme elles peuvent, mais ensuite on peut les déplacer à la main en fait. Voilà. De mémoire, ça c'est un exemple qui est peut-être. Enfin, en tout cas, c'est le même type de fonctionnement que dans le cadre d'un logiciel qui s'appelle TIPEN.
Ce que je ne comprends pas dans cette interview, c'est qu'en fait, c'est une espèce de visualiseur qui peut faire du CR.
Non, il ne fait pas du tout de CR. Mais... sur cette partie-là, il sélectionne une ligne en particulier pour pouvoir ensuite la traiter. Là, ici, dans ce cadre-là, en fait, ça permet, ici, dans ce cadre-là, ça permet non seulement de voir là où on en est, mais en plus, on peut rajouter des informations. C'est-à-dire qu'ici, on voit une petite ligne de fonctionnalité. On peut aller choisir des caractères spéciaux, on peut aller faire du balisage, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, on est dans le cas d'une transcription à partir de la source. Donc, on a de l'alignement, en quelque sorte, source, document, texte et image. Et en plus, on a certaines fonctionnalités dont on a parlé dans le cadre de traitement ultérieur et aussi dans un but d'édition notamment. Pour en évoquer d'autres, on voit abréviation ou encore dictionnaire latin. Et puis des options de recherche dans cette transcription même. Non, ça c'est pas de la TI.
Vous pouvez parler c'est plus fort pour vous poser des questions parce que qu'à Orléans, ils entendent aussi vos questions et pas uniquement les réponses des gens.
Donc la question c'était est-ce que ici c'est de la TI? Non, ça ce n'est pas de la TI. Bah, ISS, je ne sais pas. C'est peut-être même un XML maison. En tout cas, on voit d'ailleurs l'intitulé, c'est XML uniquement.